Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
À l'Assemblée nationale, une commission spéciale temporaire vient d'être mise en place pour entendre les députés Jean-Baptiste Moïndo Kasekwa, Kasueka et Délice Sanga. C'est dans l'affaire 21 000 dollars américains que toucheraient les députés nationaux. C'est sur cette motion incidentielle du député Nanou Memba qui, d'après elle, ses allégations ont jeté les députés en pâture devant la population. Délice Sanga promet de rendre compte à la nation avec des preuves de tout ce qu'il sera demandé au cours de ses audiences. 3 morts et 4 personnes blessées graves, bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi matin à Kinshasa, au croisement du boulevard Lumumba et la première rue Limété. D'après le bourgmestre de Limété, l'excès de vitesse est à l'origine de cet accident. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Tommy Tamboué Ushindi, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il nous parle du processus de mise en œuvre de ce programme, mais aussi des contraintes auxquelles il fait face, principalement dans les provinces sous état de siège. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaire 21 000 dollars américains touchés par les députés nationaux, une commission spéciale temporaire vient d'être mise en place pour entendre les députés Jean-Baptiste Muindo et Délice Sanga. Au cours de la plénière d'hier mercredi, par motion incidentielle, le député national Nanou Memba a dénoncé des allégations mensongères au sujet des 21 000 dollars américains que toucherait mensuellement chaque député national. Pour l'élu de Kipushi, ces allégations de ses collègues Délice Sanga et Jean-Baptiste Muindo ont jeté en pâture les députés qui étaient devenus les chiens à abattre face à la colère de la population. Nanou Memba est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons tous suivi l'opprobre que les collègues Jean-Baptiste Kasueka et Denis Sanga ont jeté sur nous, notamment en distillant à travers différents médias que chaque député national, y compris moi-même, est bénéficiaire de 21 000 dollars américains, voire même 27 000 dollars américains. De façon consciente et pour des visées non avouées, nos deux collègues nous ont jetés en pâture. Pour que cette population déverse sur les députés nationaux que nous sommes, non seulement sa colère inhérente aux difficultés du moment, mais aussi la loi du talion sur nous. Je sollicite de l'auguste assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire qui aura pour but d'entendre les deux collègues afin qu'ils puissent nous éclairer sur les motivations profondes qui les ont poussés à tromper l'opinion par des allégations mensongères.
En réaction, les députés Délice Sanga s'est dit prêt à affronter la dite commission et à prendre ses responsabilités jusqu'au bout. Il promet cependant de rendre compte à la nation avec des preuves de tout ce qui lui sera demandé au cours des auditions par la dite commission. Tout en assumant ses propos, Délice Sanga s'est dit prêt à poursuivre son combat, quel qu'en soit le prix, pour faire de la RDC un État sobre mais efficace, en réduisant les trains de vie des institutions au bénéfice du petit peuple. Délice Sanga est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis en train de mener depuis des années un combat pour la réduction du train de vie de l'État. Ensuite, je suis un député élu, je suis à ma troisième législature aujourd'hui à siéger dans cette Assemblée nationale et je suis très serein à pouvoir répondre à toute invitation de quelques commissions que ce soit dans la vérité et dans l'intégrité. J'ai toute ma sérénité, mais également à éclairer l'opinion publique par les éléments de preuve que la soi-disant commission demanderait à pouvoir étaler. Et donc, pour le moment, on me dit qu'il y a une commission qui est mise en place. Je ne suis pas de nature à fuir mes responsabilités. J'assume mes propos, je les assumerai jusqu'au bout. Je mènerai ce combat, quoi qu'il en coûte, quelles qu'en soient les sanctions, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale, auprès de mes compatriotes, pour que nous ayons un État qui soit un État modeste, mais efficace, capable de répondre aux besoins de notre population.
Autre nouvelle, l'opération d'enrôlement des électeurs aura bel et bien lieu à Kwamout, selon la gouverneure de la province du Maïndombé. Rita Bola a tenu à rassurer la population de sa province après l'échange qu'elle a eu hier mercredi avec le président de la CENI sur les dispositions arrêtées pour faire venir toutes les populations déplacées à la suite des affrontements intercommunautaires. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Pouamout qui est un peu dépeuplé. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire? Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les stratégies mises en place par la CENI et par le gouvernement central pour que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement? L'enrôlement aura bel et bien lieu à Pouamout puisque les stratégies seront mises en place. La population, les militaires ont déjà apaisé la population. La population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là en ramenant le bon vivre et le vivre ensemble après. Et puis, il y aura bien et bien des élections et l'enrôlement à Pouamout.
Trois morts et quatre blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi matin à Kinshasa, au croisement du boulevard Lumumba et la première rue limitée. Selon le bourgmestre de cette commune qui livre l'information, l'excès de vitesse est à l'origine de cet accident. On écoute le bourgmestre de la commune de limitée, Douglas Nkoulou, joint par Innocent Fadili.
Je confirme qu'à 5h10 de ce matin, un long véhicule, dit camion remorque, qui venait de la première rue du côté industriel, est entré en collision avec un minibus jaune de marque Sprinter. Heureusement, de ces collisions, il a été identifié 4 personnes de sexe masculin décédées sur le champ et 4 personnes dont 2 hommes et 2 femmes sont grièvement blessées.
Okay.
Après l'accident, malheureusement, le camion remorque a pris le large et il est temps de constater tous les dégâts sur le lieu.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la Commission nationale de prévention routière, CNPR, déclare avoir enregistré plus de 500 cas d'accidents durant le premier semestre de l'année sur l'étendue de la province. Parmi ces cas, plus de 130 décès et des blessés graves. Diverses causes sont à la base de ces accidents. C'est à l'occasion de la séance de l'évaluation faite par ce service étatique en province hier mercredi. Denise Lukisso.
Au total, 554 cas d'accidents de circulation routière, dont 135 décès, environ 470 blessés graves et des centaines de dégâts matériels répertoriés par la CNPR de janvier en juin de l'année en cours. La ville de Goma vient en tête avec 192 cas, dont 32 décès et plus de 130 blessés graves, ainsi que des dégâts matériels importants. Un responsable chargé technique à la CNPR Goma indique que pour la plupart de ces cas, l'excès des vitesse, l'ivresse au volant, des pannes techniques et l'imprudence seraient parmi les causes principales de ces accidents. Monsieur Sokrat Kaindo invite le conducteur de faire preuve de responsabilité une fois sur la voie publique et cela pourrait, dit-il, éviter ces incidents mortels. À cette occasion, la CNPR réitère son appel à tout conducteur des engins de respecter surtout les dispositifs et régulations de prévention des accidents et au respect strict du code de la route. Goma, Denise Louquet, Radio Capi.
En Ituri, 12 personnes, dont 5 policiers et 6 militaires FRDC, prises en otage mercredi par des hommes armés identifiés aux miliciens du groupe armé Zaïre, ont été libérés tard dans la soirée d'hier à Dala, dans les territoires de Djougou. C'était en échange de quatre membres de cette milice arrêtés dans cette localité par la police nationale congolaise, puis transférés à Bounia. Selon des sources de sécurité, parmi les policiers, 4 sont grièvement blessés après avoir subi des tortures par ces hommes armés qui détiennent une arme de ces anciens otages. Pour rappel, ces miliciens ont incendié les positions de FRDC, saccagé les bureaux administratifs du groupement Londroma et pillé plusieurs biens de la population pendant leur incursion mercredi matin dans ce village. Toujours en Ituri, 2 personnes ont été tuées et une autre blessée pendant l'incursion mercredi des miliciens de la Codeco à la périphérie de Guina dans le territoire de Djougou. Selon la société civile, les dégâts ont été limités grâce à l'intervention musclée des casques bleus de la MONUSCO et des FRDC qui ont repoussé ces assaillants. Ces derniers progressaient vers le site des déplacés et un centre de santé, ajoute la même source. Le chef de la MONUSCO en Ituri a réitéré la ferme détermination de la MONUSCO et des FRDC pour la protection des civils. Isaac Remoyopi.
Des miliciens de la Codeco ont tenté à 3 reprises de s'introduire mercredi dans la localité de Gina, qui abrite notamment un site de déplacés, un centre de santé et une école primaire. Selon la société civile locale, ces assaillants ont surpris certains habitants dans un champ communautaire à la périphérie de Gina. Des agriculteurs ont été tués et une femme blessée, précise des sources de sécurité. Ces hommes armés s'étaient approchés d'un centre de santé et d'une école et progressaient vers le site de déplacés. Alertés, les forces de la MONUSCO et les FARDC sont immédiatement intervenus Beni a riposté au tir de ces miliciens qui se sont retirés dans leur bastion à Sesele. Une action qui a permis de préserver de nombreuses vies humaines dans la zone, comme l'affirmait Dino Gédéon, président de la cité civile de Bagourou.
Et attendu les coups de balles qui sont de corps là sur la population, ils ont intervenu à repousser les coups de corps grâce à la MONUSCO, la communauté libre à Gina.
Les chefs des bureaux de la MONUSCO à Nitouri réaffirment la détermination des forces de la MONUSCO et des FARDC pour la protection des civils face à toutes les menaces des groupes armés Karnansoro.
Nos troupes sont en alerte, elles vont travailler avec les FARDC. Nous nous assurerons en tout cas à l'avenir que ces personnes-là ne puissent s'approcher des sites de déplacés.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
La cessation des cours dans les universités et instituts supérieurs publics de Bukavu plonge les étudiants dans l'incertitude du lendemain. Ces derniers se demandent quel sera leur sort, surtout que la date de reprise des activités n'a pas été annoncée par les enseignants en grève depuis le début de la semaine en cours. Héritier Kapole Akiolo Ndawa, étudiant en troisième année graduée en psychologie, en psychopédagogie, orientation scolaire et professionnelle à l'ISP Bukavu, demande aux enseignants de continuer à revendiquer tout en dispensant les enseignements. On l'écoute.
Vis-à-vis de la situation de la grève des professeurs, vraiment nous ne sommes pas contents parce que chez nous, ça nous fait toujours rentrer en arrière au lieu d'avancer en matière. D'autres universités privées, là on avance et ils sont au moins en avance plus que nous. Ce que nous pouvons recommander au gouvernement, qu'ils prennent leurs responsabilités tout en payant les enseignants comme ils demandent et surtout que les enseignants aussi aient pitié de nous parce que nous, les étudiants, nous souffrons et surtout nos parents souffrent souvent quand ils nous envoient des frais académiques. Et comme nous payons les frais académiques, les enseignants peuvent aussi se comporter comme des parents. Ils doivent continuer à nous enseigner pour que nous puissions terminer l'année en paix.
Le président de la conférence provinciale des chefs d'établissement précise que les enseignements continuent avec les professeurs visiteurs et d'autres enseignants non concernés par les revendications. Dans la province du Maniema, le promoteur de la savonnerie Nassa annonce la fermeture de son entreprise. Dans une interview accordée hier mercredi à Radio Kapi, Sabiti Jafari Alfani évoque plusieurs causes qui le poussent à fermer ses portes. C'est notamment le climat des affaires non assaini, aussi le pouvoir d'achat de la population qui est presque inexistant. Il demande l'intervention de l'État ou aux autres partenaires pour sa survie. À Kindu, c'est une correspondance de Florence Kizalunga.
C'est avec la mort dans l'âme que Sabiti Jafari Alfani est en train de fermer son entreprise. Selon ce dernier, la savonnerie Nassa est étouffée par plusieurs choses.
Donc je suis obligé de la fermer parce que ça ne vaut plus la peine. Nous sommes asphyxiés par les effets du Covid, la pénurie des matières premières, le pouvoir d'achat de la population qui est inexistant, le climat des affaires aussi qui est très sombre, qui n'est pas assaini. Donc avant qu'on ferme, si l'État peut s'assumer pour nous donner un ballon d'oxygène, on ne peut pas le refuser. Parce que nous vivons dans des contraintes fiscales. Notre chiffre d'affaires n'arrive pas à atteindre 500 000. Mais ce que nous sommes en train de débourser par mois au service de l'État, ça environne les 400 000 francs.
C'est une grande désolation pour les travailleurs qui ne savent plus où aller travailler. Bitanga Losuedi, l'un d'eux.
Vraiment, c'est un regret de notre part parce que c'est là où nous gagnons notre pain. Mais si la savonnerie est fermée, où est-ce que nous allons encore gagner notre pain? Du fait qu'à Kindu, il n'y a plus d'autres endroits où nous pouvons aller être embauchés. C'est la savonnerie Nassa qui nous assistait dans des différentes situations.
Signalons que c'est depuis 2017 que la savonnerie Nassa existe au Maniema et fournit différents types de savons à la population. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
13 ans après les violences commises le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, le procès de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et des 10 autres anciens responsables politiques et militaires s'est ouvert hier mercredi en Guinée. Après des questions de forme, l'audience ont été renvoyées le 4 octobre. Selon une enquête mandatée par l'ONU, 156 personnes ont été tuées au moins 109 femmes violées et des centaines de personnes blessées. Et puis, les talibans ont tiré en l'air jeudi pour disperser un rassemblement de femmes organisé devant l'ambassade d'Iran à Kaboul en soutien aux Iraniens qui manifestent dans leur pays depuis plusieurs jours, ont constaté les journalistes de l'AFP. Au cri de femmes vie, liberté, quelques 25 femmes ont manifesté pendant une quinzaine de minutes sur la route en face de l'ambassade iranienne avant d'être dispersées par des coups de feu tirés en l'air par des talibans.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Tommy Tamboué Ushindi, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Il nous parle du processus de mise en œuvre de ce programme, mais aussi des contraintes auxquelles il fait face, principalement dans les provinces sous état de siège. Tommy Tamboué Ushindi s'entretient avec Paul Matendo. Suivez.
Tommy Tamboué Ushindi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez d'une tournée dans les provinces sous état de siège. Quel est le constat fait par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation?
J'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné le premier ministre chef du gouvernement pour aller évaluer l'état de siège. J'ai constaté agréablement qu'au Nord Kivu comme à Ituri, la population, du moins tous ceux qui ont été consultés, tous ont exprimé la nécessité de rendre opérationnel le processus de DRCS. Et pour moi, c'était une occasion. Tellement que c'était évoqué dans chaque réunion, dans chaque consultation, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et vice-président du comité de pilotage m'a donné 15 minutes pour exprimer et expliquer aux participants le processus, le niveau d'avancement du processus PDDRCS.
Quelles sont exactement les activités dévolues à votre programme?
Notre mission en tant que PDDRCS répond directement à quatre préoccupations. La première, pourquoi il y a des groupes armés? Et qui sont les groupes armés? La réponse, les groupes armés viennent des communautés. Donc, ce sont les communautés. Pourquoi ils prennent les armes? Pourquoi ils se défendent? Les communautés disent, partout où nous les avons rencontrés, ils disent, parce que l'État est dans une situation de ne pas nous aider. Donc, ça appelle la question de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Troisième. Que faut-il faire pour que maintenant la paix, la sécurité et tout ce qui entoure cette restauration de l'autorité de l'État soit effective? Il faut poser la question, la réponse, il faut répondre aux besoins des communautés. Ce que nous appelons ici relèvement du niveau de vie des communautés. Résoudre le problème des communautés. Ceci nous amène à la question principale stratégique. Quel est le problème exactement au niveau des communautés? Il y a un problème de conflit, il y a un problème de cohésion sociale. Et donc, il faut stabiliser. Et quand nous parlons de la stabilisation, nous parlons de problèmes de paix, de résolution de conflits, la transformation de conflits et de cohésion sociale. La gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique, la gouvernance minière, la gouvernance forestière et foncière. Il faut proposer les activités.
Vous venez de citer là beaucoup d'activités à réaliser. Est-ce que vous en avez le moyen?
Le gouvernement a décidé de prendre maintenant à bras le corps ce dossier-là. Il y a également des partenaires extérieurs, bien sûr. Nous sommes en dialogue avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la MONUSCO, donc avec toutes les agences des Nations unies.
En dehors du moyen, quelles sont les autres contraintes auxquelles vous faites face?
Il y a cette question que nous avons dit, de la volonté politique, il y a la question également de la volonté des communautés. Les communautés ont toujours un rôle à jouer dans ce programme. Mais aussi, les députés et les sénateurs ont toujours un rôle à jouer. Et donc, ici, si je peux me permettre de dire, c'est l'implication de toutes les couches de la population dans le programme. Parce que le programme est communautaire. Mais la paix et la sécurité, si nous faisons sortir le groupe armé, mais qu'il n'y a pas une police de proximité, il n'y a pas une justice, il n'y a pas une territoriale de développement. Donc ce sont C'est pourquoi le programme de 145 territoires est en harmonie avec le PDDRCS. Parce que la restauration de l'autorité ne doit pas être un slogan.
Tomi Tambouye Ushindi, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.